Chères auditrices et auditeurs, l'émission que vous écoutez est réalisée par des collègues qui sont convaincus de l'intérêt du numérique dans les apprentissages. Ont-ils pour autant renié les livres ? Certes pas. C'est pourquoi nous vous proposons encore aujourd'hui d'être attentifs à notre rubrique « Notes de lecture » et aux choix proposés par Thierry, à qui je laisse la parole.
L'ouvrage dont il sera question aujourd'hui s'intitule « Lire en langue étrangère ». Il s'agit d'un ouvrage collectif publié en 2011 par le CRDP d'Aquitaine dans la collection Repères pour agir.
Pourquoi le choix d'un tel livre ? Il me semble pas question ici de langues anciennes.
Effectivement, ce livre n'est pas directement destiné aux professeurs de langues et cultures de l'Antiquité. Son propos est d'appliquer aux cours de langue étrangère les méthodes utilisées à l'école primaire pour faire des élèves de bons lecteurs. Comme le dit dans sa préface Annie Hérété, inspectrice générale du groupe de langues vivantes, cet outil
s'inscrit dans le sillage de l'ouvrage de Maryse Brumont, « Diversifier et renouveler les leçons de lecture en cycle 3 », destiné aux professeurs des écoles qui ont la responsabilité non seulement d'apprendre à lire en CP, mais surtout de vivifier l'envie de lire pour construire de solides compétences de compréhension et d'expression en langue française.
Le plan de l'ouvrage découle de ce choix méthodologique. Après une introduction abordant la question de la lecture littéraire en langue étrangère, la plus grande partie du livre est constituée de 11 chapitres correspondant à 11 modalités de lecture successivement explorées par les auteurs. Chacun de ces chapitres commence par un exemple de pratique de lecture en français à l'école primaire. Puis, des enseignants de langue vivante, allemand, anglais, espagnol, italien et portugais, proposent une situation d'apprentissage dans laquelle les mêmes modalités de lecture sont mises en place. C'est donc en partant du constat que les mécanismes qui permettent de former des lecteurs avisés en langue maternelle doivent pouvoir être transférés dans l'apprentissage d'une autre langue qu'est construit cet ouvrage, très clair et orienté vers les pratiques concrètes de classe.
Pourrais-tu nous donner des exemples de ces modalités de lecture des textes dont tu parlais à l'instant ?
Oui. La première modalité de lecture évoquée, intitulée « Les niveaux de lecture d'un texte ou d'une image », invite à passer explicitement d'une compréhension littérale, la dénotation, à un second niveau, celui de la véritable compréhension, pour arriver au troisième niveau, celui de l'interprétation. Une autre modalité de lecture vise à travailler la lecture par inférence, apprendre à questionner un texte, et pour chacune de ces modalités de lecture, la compétence visée ainsi que les compétences travaillées sont clairement précisées au début de chapitre, ainsi que dans un tableau synoptique en début d'ouvrage. Le dispositif pédagogique est clairement défini, à la fois dans le choix des supports, la gestion du temps, celle du groupe classe, alternance de travail personnel, en binôme ou en îlot. Il s'agit donc aussi d'un véritable outil de différenciation dans la pratique quotidienne de l'enseignement. Par ailleurs, la question de la trace écrite et plus largement de la gestion du tableau est toujours abordée.
Si je comprends bien, il s'agit donc d'un outil qui pourrait être conseillé aux professeurs de lettres à quelque niveau qu'ils enseignent. Mais pour les langues anciennes, en quoi un tel ouvrage peut-il leur être utile ?
Il faut pour le comprendre noter deux caractéristiques des langues anciennes. Ce sont d'abord des langues, et à ce titre il semble que les problématiques liées à la lecture en langue étrangère s'appliquent également aux langues anciennes. Par ailleurs, les langues anciennes ont cette particularité de n'être accessibles aujourd'hui qu'à travers des textes. Le premier contact avec ces langues passe donc le plus souvent par la lecture, et même s'il est possible et même souhaitable de diversifier, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les pratiques de langues anciennes, le texte et de ce fait la lecture reste un incontournable dans notre discipline dès les premières années. Appliquer toutes les modalités de lecture suggérées dans l'ouvrage à la pratique de langues anciennes paraît complexe. Certaines sont plus difficilement transposables. Il n'en reste pas moins vrai que l'application de certaines des modalités proposées à la lecture du latin et du grec peut, avant tout, permettre une convergence des méthodes, condition de la réussite des élèves. Elle peut également amener un enrichissement des pratiques de lecture dans notre discipline.
Et quelles modalités de lecture t'ont paru particulièrement intéressantes à transposer ?
La modalité 3, intitulée « La lecture à construire » est intéressante. Il s'agit de découper un texte en fragments que les élèves par binôme devront reconstruire. L'activité peut également être menée en ne donnant qu'un fragment à chaque élève et en faisant une reconstitution en commun. Une telle activité amène les élèves à travailler sur la cohérence et la cohésion du texte, mais aussi à s'écouter et à argumenter au sein d'un groupe. On pourrait imaginer un travail de ce genre sur un texte narratif simple en latin, le récit d'un mythe par exemple. Une autre modalité de lecture, la lecture honnête, invite à prendre conscience des droits du texte. Les élèves sont amenés à reformuler un texte de façon chronologique. À chaque étape de l'investigation, il faut l'accord de tous les élèves pour que la proposition soit notée. S'il n'y a pas accord, on doit se reporter au texte pour justifier. Pour ce type d'activité, le tableau est divisé en trois colonnes, ce sur quoi on est d'accord, ce sur quoi on n'est pas d'accord, et ce qui n'a pas été vu et qui sera mis en lumière à la fin de l'étude. Un tel travail permet d'apprendre aux élèves à revenir rapidement au texte et à retrouver une référence. La lecture par mise en voix est aussi une modalité transposable dans le cours de langues anciennes.
Mais Thierry, ne penses-tu pas que ces modalités de lecture sont plutôt destinées à des élèves qui ont déjà pratiqué le latin et le grec depuis plusieurs années, plus qu'à des collégiens en début d'apprentissage?
C'est vrai, en un sens. Et d'ailleurs, même si l'ouvrage s'adresse aux collègues de langue vivante de collège et de lycée, la plupart des séquences présentées visent souvent un niveau B1 ou B2, plus rarement le niveau A2 qui correspond davantage aux élèves de cycle 4. Cependant, il me semble que, dans un passage de la première partie de l'ouvrage, Annie Léreté apporte une réponse à ce doute devant les capacités des plus jeunes élèves à entrer dans la lecture en langue étrangère. Écoutons ce qu'elle en dit.
Il s'agit donc pour les professeurs de langue d'emprunter certaines stratégies des professeurs des écoles et d'organiser l'entrée dans la langue par l'immersion dans le récit pour enfants, puis pour adolescents et enfin pour adultes. L'élève, en langue étrangère, se constitue ainsi, au fil de ses lectures, une sorte de dictionnaire mental qui stocke à la fois les propriétés orthographiques, visuelles, phonologiques, syntaxiques, sémantiques, culturelles des mots de la langue étrangère. Sans doute est-il opportun, pour cela, d'avoir recours dans un premier temps à des récits intermédiaires entre l'écrit et l'oral, comme le conte, le film, le théâtre, avant d'arriver au livre proprement dit.
C'est donc certainement le croisement d'un choix judicieux et progressif des supports écrits utilisés en cours de langues et cultures de l'Antiquité et des modalités appropriées de lecture de chaque texte dans sa singularité qui permettra de construire en langue étrangère ancienne des compétences de lecture plus solides. La lecture de cet ouvrage, Lire en langue étrangère, par Annie Léreté et Maryse Brumont, peut nous y aider, mais tout reste à construire.